Pour redonner sens au travail, il faut libérer du capital. Oui, un article de Juan Sebastian Carbonell. Avec la pandémie et ce que certains ont appelé aux États-Unis la grande démission, on a beaucoup entendu qu'il fallait redonner du sens au travail. Mais l'appel, qui n'a d'ailleurs rien de nouveau, est bien souvent incantatoire ou se trouve réduit à des aspects cosmétiques du travail. Oh, ça c'est réel. Turbo réel ça. On se demande trop peu le type de transformation qu'impliquerait de redonner du sens au travail. Juan Sebastian Carbonell discute ici l'analyse et les proportions qu'avancent Thomas Coutreau et Coralie Pérez dans leur dernier livre « Redonner sens au travail, une aspiration révolutionnaire » au seuil 2022. Oh, ça a l'air d'être stylé ça en vrai comme bouquin. Il essaie de rentabiliser les lunettes, oui c'est ça ouais. Dans « Redonner du sens au travail », Thomas Coutreau et Coralie Pérez prolongent les réflexions des auteurs et autrices au sein de débats de la gauche sur la place du travail et des évolutions récentes des relations professionnelles. En effet, dans « Libérer du travail », Coutreau affirme que la gauche en France s'est peu posée la question du sens du travail, occupée davantage par celle des salaires et du temps de travail, donc prix du travail, et des conditions du travail. Et ça, je suis tellement d'accord. Et on en parlait tout à l'heure quand on disait par exemple le côté reprendre les moyens de production, bah, c'est clairement ça. Si on pense salaire, on pense retraite, on pense vacances et compagnie, mais en fait c'est qu'est-ce qu'on fait au travail et comment on fait pour récupérer le travail qui est important. Cette marginalisation de la question du contenu du travail était acceptable en raison du compromis fordiste. Et c'est pour ça que Ruffin, en vrai, est Ruffin à suivre là-dessus, hein, parce que Ruffin s'intéresse à ces questions-là, et c'est lui, il parle beaucoup du côté, en gros, il est en mode « je suis la gauche du travail », quoi. Ça me permet de m'endormir au moins. Ah bah let's go, profitez bien, reposez-vous bien. Mais ce compromis s'est progressivement essoufflé dans le dernier quart du XXe siècle pour au moins quatre raisons. Les salaires ne suivent plus l'augmentation de la productivité, le travail s'appauvrit, devient victime de règles de plus en plus absurdes, les salariés sont pris entre le marteau des objectifs et l'enclume de la réalité du travail, tandis que la crise écologique a rendu caduque un certain productivisme. Ok, on est d'accord là-dessus. Enfin, la crise sanitaire aurait contribué à remettre davantage en question le compromis fordiste. Elle a poussé des millions de personnes à s'interroger sur le sens de leur travail et à se rendre compte que si nous aimons notre travail, notre travail ne nous aime pas en retour. Donc ça, c'est vraiment, là, c'est, pour le coup, ça, c'est la tech de Ruffin. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur travail, mais qui n'aiment pas la manière dont il est fait. On se poserait alors davantage la question du sens de notre activité. Est-ce utile, inutile ou même nuisible à la société? Et moi, je l'ai vu la dernière fois quand j'étais à mon rendez-vous RSA. Il y a plein de monde, en fait, la meuf qui m'avait accueilli, elle m'avait dit, en gros, oui, vous fuyez le salariat. Je dis oui. Et en gros, en mode, la plupart des gens qu'elle recevait, en fait, c'est des gens en mode, je n'arrive plus à être dans le salariat, en fait. Ce qu'on me propose de faire, c'est débile, ça n'a pas de sens, et je ne veux plus être dans le salariat. Et du coup, il y a beaucoup de gens au RSA qui essayent de trouver des alternatives au salariat en prenant le RSA et pas après en trouvant d'autres trucs, quoi. Il faut rappeler d'emblée que d'autres auteurs se sont posé la question du contenu du travail. L'équipe de Christiane Baudelot et de Michel Golac a interrogé, il y a 20 ans, le rapport entre bonheur et travail à partir d'une vaste enquête statistique. Il rappelle en outre que le travail, c'est plus que le travail, d'accord ? Il détermine non seulement notre niveau de vie, mais aussi les identités sociales et le bonheur des individus selon une multitude de variables. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est un peu la tech de Marx de dire l'homme se... Merde, c'est quoi la tech de Marx ? L'homme... Ah putain, se considère par son travail, en tout cas. En gros, l'homme existe par son travail, quoi. J'ai trop de mal avec son discours de mon côté, Ruffin. En vrai, tu verras, affaire à suivre. S'il vrille pas, je pense qu'il va être turbo-basé, Ruffin. Mais affaire à suivre. Parce qu'ici, il peut aussi faire des belles glissades. L'anecdote suivante concernant Bismarck à propos du dernier système de retraite a-t-elle verdict ? Si oui, quelle est la source ? En 1989, au moment où il mettait en place en Allemagne le premier système de retraite au monde, le chantier Bismarck aurait demandé à son conseiller « À quel âge faut-il fixer l'âge de la retraite pour qu'on ait jamais à le verser ?» À ce quoi le conseiller répondu à 65 ans. Ah bah c'est bien Waka. Merci pour ton message de Doom en plein article. Non mais merci pour l'info, c'est intéressant. Mais il rappelle surtout que les débats sur le sens du travail ne sont pas nouveaux. Ils commencent au siècle des Lumières, traversent l'économie politique au moment de la révolution industrielle, puis tout le XXe siècle. Avec les années 68 comme au dernier moment important, moment où la place du travail dans la société a été remise en cause. On peut citer également les travaux de Yves Klott et de son équipe, qui se sont aussi interrogés sur les conditions du travail bien fait et de la participation des salariés au contenu du travail. Et moi, ça, c'est une question qui m'intéresse de ouf, et notamment par l'écologie. Quel est le travail bien fait et à quoi participerait un travail bien fait? Et ça, je pense vraiment, c'est très très important. L'apport de Coutreau et de Pérez à ce débat est double. Premièrement, en s'appuyant sur la psychologie du travail de Christophe Dejour, les auteurs invitent à sortir d'une conception exclusivement doloriste ou domino-centrée du travail. Le travail est une activité qui engage le corps et l'esprit. Dans ce contexte-là, en reprenant le mot de Marx, le travail mort écrase le travail vivant. Ouais, ça, je suis clairement d'accord avec ça. Et du reste, c'est intéressant, dans l'Anti-Oedipe, Deleuze et Guattari, ils évoquent ça. La puissance de des trucs mortifères, quoi. Alors, je pourrais pas vous l'expliquer, là, parce que j'ai pas tout compris, mais il évoque un peu ce truc-là. Toutefois, le travail est aussi une activité qui peut réaliser les potentialités de l'être humain. En se confrontant au réel qui le résiste, le travail suppose effort et souffrance. Mais de la même façon, si les résistances du réel sont surmontées, le travail peut être source de satisfaction et de réalisation de soi. Et ça, je suis clairement d'accord avec cette position-là. Pour moi, le travail est émancipateur s'il est libérateur. Il faut le considérer donc aussi comme une activité par laquelle les humains transforment le monde et se transforment eux-mêmes, de même que comme une activité à laquelle les salariés cherchent à accorder un sens malgré les contraintes qu'exercent sur elles et eux. Voilà. Et ça, vraiment, cette dialectique-là, je suis clairement d'accord avec elle. Et c'est ça qui rend le travail, qui peut le rendre beau, quoi, d'une certaine manière. Et c'est en vrai, quand on voit les gens qui sont fiers de leur travail, la fierté prolétaire, c'est un affect qui est intéressant à observer. Parce que quand tu arrives à trouver la fierté de ton travail, alors oui, il y a une forme d'aliénation, peut-être, mais en même temps, il y a un côté... je suis vraiment fier de mon boulot, quoi. Genre, je suis fier de l'activité que je fais, de la transformation de la société que je fais et de l'apport à la société que je fais, quoi. Il y a donc trois conditions à travers lesquelles le travail prend du sens. L'impact du travail sur le monde, son unité sociale, l'impact sur les normes de vie en commun, sa cohérence éthique, et l'impact sur le travailleur lui-même, sa capacité de développement. Ok, c'est intéressant ça. Autrement dit, bien accomplir un travail, il ne suffit pas. Il faut que celui-ci soit reconnu par les collègues ou la hiérarchie et qu'il transforme positivement la personne. Donc un rapport dialectique. Enfin, je crois. La mesure du sens du travail. Le deuxième grand apport de l'ouvrage est d'essayer de mesurer le sens du travail. Pourtant, cette mesure n'est pas chose faite, n'est pas chose aisée. Les auteurs appuient sur l'enquête « Conditions de travail » de la DARES du ministère du Travail de 2013 et 2016 pour mesurer le sens que les salariés accordent à leur travail. Ils et elles mettent ensuite en place des scores selon les réponses des enquêtés, permettant d'évaluer le sens qu'elles y donnent à leur travail selon trois critères déjà évoqués plus haut, présents dans l'enquête statistique. La capacité de développement des compétences individuelles, la cohérence éthique, avoir le sentiment de bien accomplir leur travail, et l'utilisation sociale, avoir le sentiment de faire un travail utile et social. Voilà. Et le côté, en vrai, le côté compétence, mine de rien, c'est très important. De voir que soi-même, on a les compétences pour évoluer, s'émanciper et se développer, et pas rester quelqu'un de bête et d'idiot, entre guillemets. Le fait que souvent l'État veut nous laisser idiots et veut nous enfermer dans notre idiotie, justement, trouver des activités et réussir à s'émanciper et acquérir du savoir et développer de la pensée, développer même des côtés pratiques et compagnie, c'est ça aussi qui te rend fier en tant qu'être humain. Tu découvres des nouvelles choses en toi, tu découvres des nouvelles choses que tu peux mettre en place, produire, créer, et ça te rend heureux d'office, entre guillemets, quoi. Sans surprise, on apprend que les ouvriers d'industrie, les employés du commerce et de la vente, les employés de la banque et des assurances, et les agents de gardiennage et de sécurité trouvent peu de sens dans leur travail. Tu m'étonnes. Ce qui peut apparaître plus étonnant, c'est que les métiers qui sont les plus hauts scores de sens du travail sont les métiers du care, assistance maternelle, aide à domicile, agent d'entretien, médecin, et en plus des enseignants, formateurs, assistants sociaux. Et c'est pour ça que Ruffin est important, c'est que Ruffin a un vrai discours basé sur les travaux du care, et c'est quasiment un des seuls à les mettre en avant, quoi. Car pas les autres, par le travail, je pense. J'ai pas compris son message. On trouve aussi plus de sens à son travail dans le public et que dans le privé. Fait notable, les salariés d'établissements où il y a des élus du personnel déclarent moins souvent un sentiment de fierté au travail ou le fait d'accomplir un travail utile. Ainsi, tout se passe comme si l'existence d'une représentation collective favorisait une prise de conscience critique concernant le sens du travail, les syndicats ayant une influence plus forte à cet égard que les élus non syndiqués. Ah, c'est intéressant ça, le côté collectif. Et vous voyez, ça fait penser là au documentaire qu'on vient de voir tout à l'heure. vu qu'il y a un côté collectif de vivre tous ensemble, bah, t'es plus intéressé t'es plus intégré en fait, dans la question politique d'office, quoi. On se réalise par l'interaction construction, le travail agit comme une nécessité. Bien sûr, voilà, exactement ça. La présence de syndicats dans l'entreprise apparaît donc comme une sorte d'antidote aux discours managériaux qui veulent faire taire du travail, qui veulent faire faire du travail un but en soi. La crise sanitaire a-t-elle changé le rapport des salariés au travail? Oui, mais de façon paradoxale. Caissières, ouvriers de manutention, infirmiers et aides-soignants, catégories professionnelles mobilisées lors de la crise sanitaire, ne sont pas celles qui déclarent le plus donner du sens à leur travail avant la pandémie. En même temps, parmi les salariés qui ont travaillé en 2020, le sentiment d'unité sociale a augmenté de 23% tout en déclarant plus de conflits éthiques dans leur travail. Alors, en mode, le travail est toujours aussi compliqué malgré le fait qu'il y ait un sens là-dedans. Parce que voilà, le sens, ça fait pas tout. Hein. Tu peux avoir un sens au travail, si ton boulot il est mal géré, c'est de la sauce, quoi. C'est Ségolène qui en avait parlé pendant sa campagne en 2007. La société du Caire, tout le monde s'était foutu de sa gueule. Ouais, c'est pas le monde des bisounours. Ah ouais, Cyril ? Ouah, t'as la dinguerie. Hein. Je sais pas ça, merci pour l'info. Les données présentées par Coutreau et Pérez battent en brèche trois idées reçues sur le sens du travail. Ils renverraient surtout au salaire. Ce ne serait qu'un problème d'ingénieur et de cadre. Et la question du sens au travail permettrait de masquer l'exploitation. Quoi ? Intéressant ça. Pour la première, on la trouve parmi les hommes et les femmes politiques qui formulent les propositions de loi de retour à l'emploi, de mise au travail serait plus approprié. Le salaire et rien d'autre serait source de motivation des salariés. Ah oui, d'accord, ok. Oui, les politiques sont en mode le salaire serait la volonté, alors que non, pas du tout. Ok, on est d'accord là-dessus. Cependant, les données montrent que les médecins, en bas de l'échelle, cherchent aussi à donner un sens à leur travail, comme c'est le cas des métiers du Caire. De plus, les ouvriers sont sensibles eux aussi au sens qu'ils donnent à leur travail. L'enquête de Coutreau et de Pérez montre que les salariés, peu qualifiés, cherchent aussi à donner un sens à leur travail. De quoi questionner les, nombreux reportages, non, pardon, si les nombreux reportages consacrés aux jeunes diplômés de grandes écoles qui démissionnent pour se reconvertir dans des métiers manuels, boulangerie, agriculteur, etc. Un déclassement volontaire. Alors que les métiers manuels traversent eux aussi une crise de vocation. Après là le problème c'est qu'il y a aussi le côté où quand t'as un pécule financier et que tu peux te permettre d'aller dans un métier en fait là c'est un peu le discours est intéressant mais ça oublie aussi une certaine réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans des métiers ouvriers, notamment des classes plus précaires, qui le sont d'office et qui aimeraient peut-être intégrer des métiers peut-être plus universitaires ou plus managérial, tu vois. Et là il y a un petit décalage aussi dans la côté classe sociale, c'est que bah oui il y en a qui choisissent de se déclasser. Et t'en as qui d'office sont classés comme ça et du coup ils n'ont pas la possibilité de pouvoir se surclasser, quoi. Donc bon, après c'est intéressant, c'est une enquête, hein, mais voilà. Les autrices pointent un risque, celui de que la direction d'entreprise se saisisse de la quête de sens par les salariés pour l'intégrer au discours sur la motivation, l'autonomie et la performance. Ah bah le libéralisme, hein, toujours. Hein. Tiens, Nonem, hop là. Le libéralisme toujours présent pour aller saper les trucs anticapitalistes. C'est ce que montre la littérature sur le nouvel esprit du capitalisme. La quête de sens peut servir à masquer l'exploitation. Pourtant, cette capture de la quête de sens par les directions n'est jamais totale. Elle se heurte au pouvoir d'agir des salariés. On peut dire aussi à leur engenzin, leur quant à soi, d'après l'expression d'Alf Lüdke, c'est-à-dire un espace d'autonomie relative où les exploités s'approprient et jouent avec les contraintes. Les personnes au travail portent des valeurs et des aspirations non réductibles aux objectifs du management. Ouais, et ça en vrai, je suis d'accord, mais jusqu'à quelle limite ? On l'a vu là avec les grèves des contrôleurs récemment, ils ont réussi à gagner leur augmentation de salaire, mais ça s'arrête relativement à ça en fait, c'est que c'est beaucoup d'augmentation de salaire. Mais après, tout ce qui est reprise en main de la politique de l'entreprise, c'est un peu passé aux oubliettes, quoi. Voilà, réformer, ça met des limites, exactement. Quelle est l'origine de la perte du sens du travail ? Outre la financiarisation de l'économie, qui a imposé aux entreprises et aux salariés de nouveaux impératifs de performance et de rentabilité, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont favorisé un resserrement du contrôle et de l'encadrement du travail, au détriment de son sens. Celles-ci permettent de codifier et de standardiser pour ensuite mieux évaluer le travail des uns sur les autres autour d'objectifs chiffrés. Et ça, les gens, je vous en parle tout le temps. sortir de l'uniformisation, créer des métiers qui ne peuvent pas être contrôlés, qui ne peuvent pas être... en fait, il faut casser les flux, rediriger les flux pour éviter que les flux soient intégrés et décodés par le système capitaliste. Et en gros, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout ça ne soit pas décodable et d'avoir une logique où le capitalisme ait du mal à décoder les flux et du mal à, du coup, à s'intégrer dans les logiques du capitalisme. Et ça, pour moi, c'est hyper important, d'où le fait que je suis... je vais essayer de construire un discours sur le régionalisme notamment. Cette nouvelle organisation de travail est particulièrement perverse lorsqu'elle s'applique à d'autres secteurs que la production de biens manufacturés, comme les services à la personne. Les données de l'enquête conditions de travail montrent que les salariés qui ont des objectifs chiffrés trouvent moins de sens à leur travail. Alors ça, il y a un livre qui en parle très bien, c'est Bullshit Job de David Graeber. Il en parle très 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 bien. En cela, dans l'opposition entre capital et travail, la question de l'exploitation et du salaire reste bien sûr fondamentale. Mais le management désincarné y ajoute de plus en plus un conflit sur le sens du travail. On interdit les tableaux Excel, let's go. Ben ouais, ou alors, il faut vraiment des tableaux Excel qui aient une vraie valeur, tu vois. Mais oui, bien sûr, il faut interdire toutes ces merdes-là. Et encore, hier, je matais une vidéo sur Bruce. C'était une meuf qui fait du coup de l'élevage de cochons d'une race particulière dans je sais plus quelle région. Et la meuf, elle bossait pour la Commission européenne en Angleterre et elle faisait des rapports. Et c'est vraiment l'idée même de Bullshit Job, c'est de créer des rapports qui vont jamais être lus. Et du coup, elle a give up son métier, elle est devenue éleveuse de cochons, pardon. Et dinguerie, tu vois. Alors, c'est trop cool en plus d'avoir c'est bien d'avoir de plus en plus de femmes qui font ça, même si c'est toujours présent, mais que c'est mis en avant, quoi. C'est trop cool. Et du coup, une meuf qui a arrêté son boulot de merde et qui est partie pour faire de l'élevage, quoi. Donc, c'est hyper important d'avoir ce genre de témoignage. Après, encore une fois, une meuf qui était comme ça dans un métier à la commission et compagnie, elle a dû avoir beaucoup, beaucoup d'argent de côté. Donc forcément, c'est plus simple de pouvoir faire la bascule. Ça, c'est toujours le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le souci du foncier, quand tu as un gros pécule, évidemment, c'est plus simple d'acheter ton terrain ou de louer un terrain et de pouvoir faire de la culture. C'est un peu le problème. Tu es obligé de calculer, c'est inventer la production que le capital n'arrive pas à décoder. Il faut essayer de mettre en place des systèmes qui sont le plus difficilement décodable du capital et pour comme ça créer un truc très diversifié et qui ne peut pas être contrôlé et suivi par les États, par les institutions, quoi. Le travail ne cesse de changer sous la main des directions des entreprises, que ce soit sous la forme d'une restructuration permanente, dans le sens d'une réduction permanente et souvent discrète des effectifs ou de réorganisation, comme le cas de la Poste, étudié notamment par Nicolas Jouin. Ainsi, les autrices montrent que plus il y a de changements au travail, moins les salariés accordent un sens à leur travail. De plus, la filiation, l'externalisation, les relations de sous-traitance influencent le sens que le salarié donne à leur travail. Plus un établissement est indépendant, plus les salariés donnent du sens à leur travail. Ok, ça me paraît logique en vrai de vrai. Et déjà, la Poste maintenant, c'est beaucoup d'intérimaires. Il y a beaucoup d'intérimaires à la Poste. La question du sens au travail est aujourd'hui mise en devant de la scène en raison de la crise écologique. En effet, de nombreux salariés sont conscients des effets négatifs de leur travail sur l'environnement. Et moi, ça, je l'ai percuté quand j'étais vendeur au magasin de jouets. Quand j'ai vu l'impact des jouets de merde que je vendais, ça m'a rendu malade, quoi. Il y a ça qui m'a rendu malade, plus le fait d'avoir des paniers dans la même journée, des enfants qui avaient 6000 euros de cadeaux. Et des enfants qui étaient en mode leur daron qui disaient « Non, on peut pas acheter ce cadeau parce qu'il n'y a pas d'argent. » Ça m'a juste brisé le cœur et du coup, j'ai fait « Ouais, c'est mort, je veux plus participer à ça, quoi. » L'enquête « Conditions de travail » permet de saisir ce phénomène statistiquement. Ce sont surtout les ouvriers qui déclarent que leur travail a des conséquences négatives sur l'environnement. Les auteurs affirment aussi que les salariés avec moins d'autonomie au travail sont celles et ceux qui déclarent le plus souvent que leur travail nuit à l'environnement. Le rôle des syndicats apparaît aussi dans les données statistiques. Plus un salarié déclare être couvert par un syndicat, moins il et elle déclarent que son travail nuit à l'environnement. Oh, c'est intéressant ça. Grave intéressant comme chiffrage. On constate aussi une corrélation entre les remords écologiques et les conditions de travail. Avoir l'impression que son travail nuit à l'environnement accroît le risque de déclarer ne pas pouvoir exercer le même métier jusqu'à 60 ans. Ce qui laisse penser à un projet de reconversion. Ah ça c'est logique hein. Genre si tu bosses dans le pétrole, évidemment que tu vas vouloir changer vite. Hein. Les données des auteurs montrent d'ailleurs que chez les 30-49 ans, qu'on trouve un lien plus net entre remords écologiques et projets de reconversion, contrairement à l'idée que cela concerne surtout les jeunes entrant dans le marché du travail, vite déçus par le besoin par le monde d'entreprise. Oh, c'est intéressant, ça, en vrai. Quand les directions s'approprient le sens au travail. Suite aux transformations décrites plus haut, les directions d'entreprise se sont posées la question de la manière de remobiliser les salariés tout en maintenant leur contrôle sur l'organisation en redorant leur blason au passage. Ah, bonne question ça. Très très bonne question. C'est à toi Jacques Brelan. Et je te montrais, on a eu un article là-dessus, non même si tu veux, sur les gens qui en ont marre de l'impact écologique de leur boulot. On a lu un article sur le sujet. On a vu alors se développer les discours sur la responsabilité sociale des entreprises, censée garantir le respect de l'environnement et des salariés. Pourtant, on a cessé de constater les décalages entre ce que le cabinet de RSE déclare sur les entreprises qu'ils évaluent et les pratiques de ces dernières. De même, les auteurs ne constatent pas de lien positif entre RSE et sens du travail dans les données. On a vu aussi se développer l'idée d'entreprise à mission, suite à la loi du pacte 2019, qui permet aux entreprises de déclarer d'autres raisons d'être que leur profit. Au-delà du contenu de cette loi, ses effets à l'échelle de l'économie de son ensemble restent invisibles, puisque le nombre d'entreprises à mission reste très marginal en France. Ok. En vrai, c'est dommage parce que... Moi, je connais pas RSE pour le coup, mais on a vu justement qu'à l'époque, les multinationales, en fait, répondaient à une logique de répondre à un besoin, et une fois que le besoin était fini, la multinationale soit se démantelait, enfin l'entreprise soit se démantelait, soit elle était actée pour faire un autre besoin. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir justement des missions qui sont mandatées pour faire des entreprises qui sont mandatées pour faire des missions. Je pense que c'est important d'avoir ça pour permettre en gros la ligne directrice d'entreprise. Et au moins, tu fais ça, t'es pas là pour faire du profit, tu réponds à un besoin. Ça, je pense que c'est très important et il en faut plus. Mais RSE, pour le coup, je le connais pas du tout. Aux côtés de la RSE et des entreprises à mission, on a vu apparaître l'entreprise libérée, fondée sur l'abandon du commandement hiérarchique et de ses objectifs chiffrés. Celle-ci vise à accorder aux salariés de nouvelles formes d'autonomie dans le travail, une autonomie opérationnelle qui permet de décider comment on va réaliser des tâches et une autonomie professionnelle qui permet d'organiser soi-même son travail. Cependant, l'entreprise libérée reste pionnière des finalités de l'organisation, les profits des actionnaires. En outre, ces initiatives ont un but indirect. Elles visent à reformer la légitimité des détenteurs ou mandataires du capital, non seulement sur leur statut hiérarchique ou patrimonial, mais sur une position symbolique d'animateur d'une communauté de travail. Ok, ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant ce truc-là. En gros, même si on libère l'entreprise de ça, vu qu'on reste prisonnier du capital, on est quand même dans la logique capitaliste et donc du coup dans une logique relativement destructeur, quoi. Enfin, cette libération de l'entreprise s'accompagne d'une intensification du travail dans la mesure où les salariés ne ressentent plus de barrière morale à s'investir davantage dans leur travail. Au lieu de contrôle hiérarchique, c'est l'autocontrôle ou le contrôle par les pairs qui met au travail les salariés. Le fameux panoptique. Le panoptique, quoi. Super. De façon générale, on ne peut qu'être d'accord avec les critiques de Coutreau et Pérez formulées à ces initiatives. Aucune d'entre elles ne peut vraiment démocratiser le travail. Le rapport salarial de subordination, qui confère aux détenteurs du capital le monopole des décisions stratégiques, se révèle incompatible avec une véritable auto-gouvernement du travail. Voilà, et ça, je pense que je suis d'accord, clairement avec ça. En fait, si tu as un monopole capital et quelqu'un qui gère ça, tu vas forcément te contrôler contrôler tes actions et éviter de faire perdre du profit. Mais pas par volonté de fierté entre guillemets, mais juste parce que si tu fais perdre du profit à l'entreprise, quelqu'un peut te taper sur les doigts et du coup on peut te retomber dessus quoi. Le panoptique n'est pas forcément positif si je ne m'abuse. Ah non, non, le panoptique c'est même clairement négatif pour le coup. Non mais là c'est justement, là c'était en gros c'est une vision de contrôle en mode justement c'est du contrôle et de l'autorégulation en mode les salariés se contrôlent les uns les autres pour éviter qu'il y en ait un qui fasse des bêtises, quoi. Donc c'est clairement un panoptique négatif. Enfin, c'est négatif. Hein. RSE, entreprise à mission, entreprise libérée, etc. se heurte à chaque fois aux impératifs de valorisation financière et aux structures de pouvoir existantes. Voilà. C'est clairement ce que je disais. Et c'est pour ça, moi, quand je vous disais ça, est-ce qu'on pourrait pas construire un discours, les prochains discours, là, de créer des entreprises qui ne sont pas à but de profit, pas à but lucratif. Et comme disait là-dedans Marina Leda, tout réinvestir dans l'entreprise dans le truc et vraiment faire des salaires qui bougent pas et enfin, qui augmentent par rapport à l'inflation, mais qui n'augmentent pas par rapport aux profits générés, quoi. Quelle résistance face à la perte de sens? Les initiatives décrites plus haut sont en commun de venir d'en haut. Or, on constate aussi des initiatives venues d'en bas. La désertion individuelle, la prise de parole collective et l'engagement dans l'économie des communs. Voilà, let's go, oui, le commun, le retour des communs. On a constaté des difficultés de recrutement depuis plusieurs mois. Certains ont même évoqué une grande démission. Même si celle-ci ne correspond pas à une réalité statistique, le taux de démission actuel est élevé, mais pas inédit, le rôle de la perte du sens du travail joue un rôle important dans les difficultés de recrutement. Les auteurs montrent que les secteurs où les conditions de travail sont les plus difficiles, exposition à des produits chimiques dangereux, travail dans l'urgence, tension avec le public, sont ceux aussi qui ont le plus de mal à recruter. Alors ça me paraît malheureusement logique, hein. C'est que les gens n'ont plus envie en fait de se détruire la santé pour engraisser des gens, quoi. Ils montrent aussi que les salariés qui trouvent moins de sens à leur travail ont plus tendance à changer d'emploi. Il faut remarquer que le salaire ne joue pas autant que ce que l'on peut penser dans la mobilité professionnelle. Ah, c'est intéressant ça. Oui, bah si, oui, ça me paraît logique ça. Le salaire, en vrai, tu peux changer de boulot et avoir un salaire moindre si tu es sûr que ton travail est positif pour toi. La prise de parole collective est une autre façon de faire face à la perte du sens du travail. Pourtant, cela ne se traduit pas toujours par la syndicalisation. En effet, les salariés qui déclarent une perte de sens du travail ne sont pas plus syndiqués que les autres. Pour les auteurs, cela est dû au fait que les organisations syndicales prennent peu en charge la question du sens et l'organisation du travail. Mais elle prend de moins, en fait, elle prend plus en charge. Quelques initiatives récentes et qui se situent en dehors des syndicats cherchent à donner la parole aux salariés sur le travail. Voilà, c'est ça. Et c'est dommage, en fait. Le syndicat devrait faire cette tâche-là. J'aime bien le concept de lier les zones de production agricole à des cantines et d'écoles ou autres. Ça fixe un objectif infini. Nourrir les gens, il n'y a pas de quête bénéfice. Ouais, c'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi, Jacques Brelon. J'en parle souvent de ce genre d'initiative. C'est le cas de l'enquête de Philippe Davizès sur Renault, qui a organisé des prises de parole des ouvriers afin qu'ils expriment leurs avis sur le travail bien fait. Cette démarche s'oppose à celle de Yves Clotte, qui organise le dialogue sur le travail à une échelle différente, directement entre les référents des salariés, la direction et les membres de la hiérarchie concernés. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, moi je pense qu'il faut absolument donner la parole aux ouvriers. Salut, Cycle. On peut ajouter aussi que les expériences dialogiques de Clot ne résolvent pas la question de la distribution inégale du pouvoir aux entreprises, et qu'elles ne peuvent même se retourner contre les salariés en mettant en place une sorte de co-responsabilité, alors que le rapport salarial est fondamentalement inégalitaire. Ouais, je suis clairement d'accord avec ça. Je suis pas d'accord, les syndicats le font peut-être pas partout, mais je connais plein d'endroits où c'est le cas. Oui, non, ils le font plus dans le sens, ouais, ils le font moins. J'aurais peut-être dû dire, ils le font moins. Mais il y a quand même pas mal de syndicats qui le font moins ou alors, tu sais quoi, je vais reformuler. Les syndicats ont peut-être moins la possibilité de le faire. C'est peut-être plutôt ça la vraie réponse. En vrai de vrai, je pense que c'est plutôt ça. Enfin, l'essor d'une économie des communs et d'une dernière tentative de donner sens au travail. Oui, les communs sont des ressources matérielles ou intellectuelles gérées collectivement dans une logique d'auto-organisation. C'est le cas des coopératives d'activité et d'emploi qui réunissent les travailleurs en auto-emploi tout en ayant accès au statut de salarié. Cependant, ces initiatives sont traversées de contradictions entre leur désir d'autonomie et leur désir de protection, associé au statut salarial. Après voilà, on peut avoir un statut différent, on peut créer un nouveau statut, hein. Ouais, c'est ça, ok, moins de moyens, loi du travail notamment, on est ok. Voilà, c'est plutôt ça le truc, c'est que je pense que la logique de syndicat n'est pas. C'est ça, c'est de penser la moyenne de production, mais à l'heure actuelle, ils ont beaucoup moins de moyens. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. De la même façon, la plupart des expériences coopératives sont loin de l'utopie autogestionnaire qu'elles voudraient être, avec l'émergence de nouvelles hiérarchies et de nouvelles dominations. Existe, gestion collective, économie des communs, sont trois formes d'action qui pourraient être complémentaires. Il s'agit toutes les trois d'initiatives par en bas qui cherchent à lutter contre la dégradation des conditions de travail et à réinventer les façons de travailler, mais qui comportent plusieurs limites. Voilà. Et c'est pour ça que c'est tout un boulot à mettre en place. Il y a un vrai taf, hein. Il y a vraiment un taf à faire, hein. Socialiser l'entreprise, contrôler le travail. Les propositions visant à démocratiser l'entreprise, à accroître la participation des salariés aux décisions et à la détermination du contenu du travail ne manquent pas. La gouvernance partagée, la codétermination ou le bicaméralisme, je ne sais pas ce que c'est ça, sont certainement les plus connus. Cependant, Coutreau et Pérez constatent à raison que là où elles ont été mises en pratique, la nature du travail ne change pas fondamentalement. Un meilleur équilibre interne des pouvoirs entre capital et travail n'empêche donc pas la formation d'un consensus implicite pour garantir la croissance et l'emploi au détriment, le cas échéant, des parties prenantes extérieures et de la nature. Deux chambres comme assemblée. Attends. Bicaméralisme ou bicaméralisme, deux chambres. Ok, je sais pas. Ainsi, au sujet du... c'est cas ou c'est ça ? Je vais dire bissa. Au sujet du bicaméralisme, on peut penser à la critique de Sophie Bérou qui lui adresse. L'innovation institutionnelle à elle seule ne suffit pas pour rééquilibrer le pouvoir dans l'entreprise. Bika, ok merci, Bika. La question de la réforme de l'entreprise évacue bien souvent celle de l'action collective et des conflits du travail. Pourtant, les plus à même de contribuer à la démocratisation du travail. De la même façon, toujours selon Bérou, penser le monde du travail de façon analogue au champ politique pose problème. Malgré leur ressemblance, des univers sont différents. Ah, c'est intéressant comme penser ça. Le rapport salarial en appelle à des institutions propres, susceptibles de servir aussi de point d'appui à une transformation en profondeur du salariat, voire un dépassement de la dimension de subordination dans le travail. Ah, en vrai, c'est grave intéressant de créer des nouveaux lieux d'institutions pour penser le travail, ok, qui sont en dehors de la politique. Enfin, de la politique classique, quoi. J'aime bien ça. Je trouve que c'est une idée intéressante. Démocratiser l'entreprise à travers des réformes pour redonner du sens au travail ne suffit donc pas. Mais pour Coutreau et Pérez, on ne peut donc plus parier sur les seuls acteurs de l'entreprise, actionnaires et salariés. Pour réformer celle-ci dans un sens plus respectueux de l'environnement. Ou pour qu'elle défende des intérêts collectifs qui la dépassent. Car ils seraient en priorité concernés par la réussite de leur entreprise et le maintien des emplois. Et surtout la volonté de s'enrichir. Je pense qu'il faut aussi l'appuyer là-dessus. C'est que, en vrai, une entreprise doit faire du profit. Donc, tant qu'on ne dépasse pas cette logique-là de faire du profit, on ne peut pas penser les rapports de domination et les rapports à la nature. Bourse du travail. Je connais pas le sujet, mais oui, je suppose. Ouais. Il faut donc que des acteurs externes à l'entreprise, riverains, usagers, acteurs et actrices de la société civile, prennent des décisions avec elles et eux et participent au conseil d'administration. Oui ! Putain, ça, je suis vraiment d'accord. On participe au commun, une entreprise fait partie du commun et quand ça a un impact sur la population, on vote tous ensemble les décisions politiques qui sont prises au sein de l'entreprise. Ça, c'est ultra important. On ne doit plus viser le profit, on doit viser les conditions matérielles d'amélioration de la population. Il s'agirait de défendre une socialisation de l'entreprise, entendue comme un contrôle de celle-ci par les salariés, les apporteurs de capital et les usagers, riverains, associations de consommateurs. Dans cette configuration tripartite, les apporteurs de capital ne pourraient pas s'enrichir. On dissocie le droit de propriété du droit de décision, tout en supprimant les revenus du capital. Mais let's go, mais oui ! Ah putain, ça pourrait être moi qui écris cet article. Je suis tellement d'accord avec ça. La loi du travail fait perdre du pouvoir aux instances représentatives des salariés, et on parle de démocratie d'entreprise. Ok, bah... Enfin, vous voyez, là, c'est le problème, c'est que j'étais trop jeune et vraiment dépolitisé à cette époque-là, donc j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Cette proposition, déjà présente dans le Libérer le travail, reste ambiguë quant à ses buts et ses modalités, et se heurte donc à plusieurs limites. Qui seraient les apporteurs de capital ? S'agit-il d'acteurs publics ou privés ? Et surtout, quel est le rôle dans la socialisation de l'entreprise ? En ce qui concerne la transition écologique, penser qu'on ne peut pas parier sur la conscience écologique des salariés, car il et elle seraient davantage concernés par le maintien de leur emploi, s'est voué vaincu avant même que la bataille ait lieu. Alors moi, ça, je suis fondamentalement contre ça. Pour moi, les salariés, enfin, l'écologie va partir des prolétaires, et je pense à l'écologie prolétaire, et pour moi, si tu redonnes la force de production aux employés, aux salariés, aux travailleurs, beaucoup d'entreprises deviendraient écologiques. J'en suis fondamentalement convaincu. Si la nature est un champ de bataille, les organisations de salariés ne le sont d'autant plus. En effet, les organisations syndicales sont aujourd'hui le lieu de conflits et de débats sur la place du travail dans la transition écologique. Fédérations, syndicats d'entreprise et sections syndicales sont traversées par des débats sur la question de l'écologie. Des propositions se font concurrence en leur sein, entre celles qui défendent le statu quo, pour les plus conservatrices, et celles qui envisagent une action collective et démocratique autour de la reconversion de leur activité pour les plus radicales. Autrement dit, le changement peut aussi venir de l'intérieur. Et bien sûr, et en fait, surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous utilisez des produits chimiques, le travailleur a la volonté d'arrêter l'utilisation des produits chimiques, non pas pour l'écologie, mais pour sa santé. Mais de ce fait, c'est une action politique et écologique. C'est pour ça qu'il faut le penser comme ça. On peut citer brièvement deux exemples récents. Le premier concerne la transition écologique dans le secteur automobile. La CGT Renault a élaboré un programme très abouti de réindustrialisation du secteur autour de la production d'un petit véhicule électrique populaire. Oh, trop stylé! Je savais pas ça. Très intéressant. Cette proposition, malgré diverses limites, que l'on ne peut pas détailler ici, se veut concurrente à l'actuelle stratégie de profit de la direction du groupe, centrée sur la délocalisation de la production des petits véhicules dans les pays à bas coût et de production en Europe de l'Ouest des véhicules premium et haut de gamme destinés à ménages aisés. Il s'agit à la fois de sauver des emplois et de lutter contre le changement climatique. Basé, hein, Renault. Enfin, la CGT de Renault. Le deuxième est celui du conflit contre la fermeture de la raffinerie de Total à Grandpuy, en Île-de-France. L'entreprise défend cette fermeture avec des arguments écologiques pour cacher en réalité une délocalisation des activités de raffinage au Mozambique et en Ouganda. Ah les bâtards, et en fait là ils utilisent le rapport écologique pour... les fils de chien. Cette fois-ci encore, les grévistes ont formulé un programme de reconversion de l'activité soutenu par diverses associations écologiques autour du mot d'ordre « la fin du monde, fin du mois, même combat ». C'est bien ça en vrai, le rapport écologie prolétaire. Hein. Ces deux cas montrent que la question de l'écologie est aujourd'hui loin d'être étrangère aux organisations du salarié. On peut aussi parier qu'elle le sera de moins en moins et qu'elle est déjà posée comme un enjeu au sens du travail, pouvant fédérer au sein de l'entreprise et au-delà. Oui, ça je suis fondamentalement d'accord avec ça. Bien sûr, 200 000 Maasai déplacés. Non, mais ce qui se passe en Tanzanie, en Ouganda et en Afrique du Sud, c'est une immense dinguerie, évidemment. Allez voir les liens de les Amis de la Terre, c'est un scandale. Enfin, une question cruciale reste en suspens. Comment socialiser l'entreprise? Le livre de Coutreau et de Pérez ne détaille pas cette question. Ailleurs, je défends l'idée du contrôle ouvrier, qui n'est rien d'autre qu'une réorganisation du travail par en bas, d'après l'historien du travail David Montgomery. Autrement dit, l'imposition de règles collectives décidées démocratiquement comme un moyen pour réguler les relations du travail, la menace du chômage et aussi, on pourrait dire aujourd'hui, le respect de l'environnement. Oui, vraiment ça j'y crois, mais j'y crois tellement à ça. Hop là. Pardon. Ce contrôle peut prendre la forme du contrôle sur les cadences ou le rythme de travail, mais aussi prendre des formes plus élaborées, celle d'une contre-planification du travail. Ce n'est pas la première fois que le culte de la productivité au travail est remis en cause. Dans les années 60 et 70, la critique du travail s'est incarnée par exemple aux États-Unis dans ce qu'on a appelé le Blue Collar Blues, le blues du col bleu, principalement dans le secteur de l'automobile. Alors ça, je crois qu'on a un petit peu lu là-dessus, mais pas beaucoup. Comme dit en introduction, le culte de la productivité au travail n'a jamais eu une très bonne presse parmi les travailleurs eux-mêmes, évidemment. En quelque sorte, personne d'autre ne sait mieux combien les entreprises sont inefficaces, ennuyeuses et combien elles produisent des déchets. Les travailleurs de l'industrie se moquaient de l'inefficacité de l'organisation du travail, pourtant scientifique. Let's go, oui! Tellement basé, hein! De plus, le travail était ennuyeux et difficile, et les salaires qui accompagnaient les hausses de productivité n'étaient clairement pas suffisants. C'est pour cela qu'on constate partout à cette époque, dans le secteur automobile, des tentatives des ouvriers de substituer leur méthode de production à celle de la direction. Produit de l'incapacité de United Auto Workers ou de management à écouter leurs revendications. En cela, la lutte autour du contrôle sur le travail était aussi une lutte pour le contrôle du syndicat. Redonner un sens au travail et à la démocratie et le démocratiser sont des enjeux centraux pour le monde du travail aujourd'hui. À mesure que celui-ci s'éloigne progressivement du productivisme qui a prévalu tout au long du XXe siècle. L'ouvrage de Coutreau et de Pérez nous montre que plusieurs chemins s'offrent à nous. Il s'agit maintenant de se poser la question collectivement, de savoir lequel prendre et quels seront les moyens pour imposer une bifurcation. Let's go! T'es cool l'article, t'es vraiment cool. Hein. Et ça, en vrai, ça m'a donné envie de lire le truc, mais vu que c'est beaucoup de stats, bon, je sais pas. Je verrai. Peut-être que je lirai le bouquin, mais quand j'aurai pas grand-chose à lire, quoi. Là, j'avoue, j'ai plein de trucs à lire, notamment l'anti-Œdipe et Émile Platon.